Vous avez une question sur le logement, l'Adil 48 y répond sur 48 FM.
Adil 48,
l'agence départementale d'information sur le logement.
Alors la question, en a-t-il le droit ?
Effectivement, du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc nous, nous sommes là, vous pouvez nous contacter par courrier, par mail ou passer à l'agence, c'est encore le mieux.
Ce n'est que le logement, mais tout le logement.
Tout de suite, la minute de l'Adil.
Et bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de 48 FM pour votre chronique logement, la minute de la deal sur 48 FM où chaque semaine, une juriste de l'agence départementale d'information sur le logement répond à l'une de vos questions sur le thème du logement et de l'habitat, des thèmes nombreux et variés. Vous en avez l'habitude et aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale, une émission spéciale à Radon, en direct des locaux de la deal à l'occasion de la journée européenne du Radon du 7 novembre, avec bien sûr Héloïse Coste, directrice de la deal. Salut Héloïse.
Bonjour à tous.
Et nous avons une VIP aujourd'hui, Thérèse Fajardeau, technicien sanitaire en chef à la délégation départementale Lozère de l'ARS Occitanie. Bonjour.
Bonjour.
Alors merci d'être avec nous. Donc nous allons parler de radon, peut-être pour commencer, définir ce qu'est le radon.
Donc le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il est issu de la désintégration du radium et du radium qui sont présents notamment dans les sous-sols granitiques. Donc on en a beaucoup sur le département, puisqu'on a une bonne partie du département en fait qui est sur du granit. Donc une fois produit par ces roches, il est transféré vers l'atmosphère par des fissures donc présentes dans le sol, et il peut être transféré aussi dans l'eau souterraine. Et donc malgré une période radioactive relativement courte, en fait vous diminuez de moitié en fait les particules radioactives qui donnent du radon en 3 jours 80 à peu près, donc un peu moins de 4 jours. Malgré cette période relativement courte, le radon arrive à s'infiltrer dans les bâtiments où il peut être concentré en fait de par la nature du bâtiment lui-même, et il peut donc avoir eu un effet sur la santé des personnes qui résident dans ces locaux. Dans l'air extérieur, donc le radon est présent naturellement hein, sur le département comme partout ailleurs en France, mais il est rapidement en fait dilué par l'air, les courants d'air, etc. Donc il a une concentration très peu élevée qui ne va pas avoir d'impact sur la santé. Donc en gros une concentration de quelques dizaines de becquerels par mètre cube. Dans les lieux confinés, donc les grottes, les mines souterraines, les bâtiments en général, les habitations en particulier, il peut s'accumuler et atteindre des concentrations élevées qui peuvent avoir un impact sur la santé, donc supérieur jusqu'à quelques milliers de becquerels par mètre cube.
Alors Héloïse, justement, comment le gaz peut rentrer dans les logements ?
Effectivement, hein, ce gaz naturel, il va réussir à rentrer dans les logements par différentes voies d'entrée, et notamment par tout ce qui est fissures, sous-sol, les murs qui sont semi-enterrés, et plus généralement par tous les défauts d'interface entre le sol et le bâti. Et il va rester effectivement confiné à l'intérieur du logement, notamment en cas de défaut d'aération et de ventilation du logement.
Alors, quelle est la situation en Lozère ?
Donc en Lozère, on a à peu près 80% de la population qui est dans un secteur où, à risque enfin, moyen ou élevé d'avoir du radon. Ce risque est déterminé par la géologie en fait, des sous-sols. Donc c'est tout ce qui est nord-Lozère, en fait, comme je l'ai dit précédemment, tout ce qui est granitique. Mais le radon, comme il va passer par les fissures dans le sol, on peut mesurer aussi du radon dans le sud département sur les zones qui sont plus sur du schiste. Donc en fait, au départ, quand on a essayé de faire un état des lieux sur la France entière, en fait, du potentiel radon des départements, la Lozère, de par sa superficie en fait granitique, s'est retrouvée en fait dans les 31 départements prioritaires face au risque radon, donc sur la France entière. Donc c'est la condition de tout tous ces sous-sols, etc., qui a permis à l'IRSN, donc l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de faire une cartographie qui est accessible un peu partout, notamment sur le site de l'IRSN, donc qui classe toutes les communes de France en fonction d'un potentiel radon. Il y a trois catégories et donc on en a à peu près 80% du département qui est sur les zones plus élevées.
C'est énorme. Trois catégories, Louise ?
Oui, effectivement. Hein, si on rentre dans le détail, donc la première catégorie, la catégorie 1, ça va être les communes à potentiel radon localisées sur des formations géologiques présentant les teneurs en uranium les plus faibles. Alors ces formations, elles vont correspondre notamment aux formations calcaires, sableuses, argileuses, constitutives des grands bassins sédimentaires. Donc ça va être notamment le bassin parisien, le bassin aquitain, et à des formations volcaniques basaltiques, comme le Massif central, la Polynésie française ou les Antilles. Donc sur ces formations, une grande majorité des bâtiments présentent des concentrations en radon faibles. Donc on considère que le potentiel radon est plutôt faible dans ces zones. Ensuite, on a la catégorie 2. Donc là, ça va être des communes qui sont localisées sur des formations géologiques présentant des teneurs en uranium faibles, mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments. Et ensuite, on va avoir la catégorie 3. Les communes à potentiel radon en catégorie 3 sont celles qui sont sur au moins une partie de leur superficie avec des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres formations. Et là, effectivement, on va retrouver notamment tous les massifs granitiques, massif armoricain, le massif central, bien sûr, la Guyane française et certaines formations volcaniques. Toujours le massif central, Mayotte, la Polynésie française, mais également certains grès et schistes noirs. Voilà, donc c'est vrai qu'en Lozère, hein, comme le disait Madame Fajardeau, on a 80% du territoire en zone de potentiel radon, niveau 2 ou 3. Donc on est particulièrement concerné.
D'accord. Du coup, en Lozère, plus de 80%, tu l'as dit. Quels sont les risques sanitaires liés au radon ? Parce que c'est ce qui va intéresser nos auditeurs.
Oui, alors l'exposition au radon engendre une augmentation de risque d'avoir un cancer du poumon. En fait, en France, on considère qu'il y a à peu près 3000 décès par an dus au cancer du poumon qui sont dus à une exposition au radon.
Ce qui n'est pas négligeable. 3000 cancers par an, c'est rien. C'est le radon peut-être. On espérait que ça ne soit pas ça.
Voilà, non, j'en ai pas à la maison, je croise les doigts. Donc en fait, on a à peu près 10% des... je ne vais pas y arriver. On a à peu près 10% des cancers du radon donc, qui ont été observés entre 2008 et 2012 qui sont attribuables à une exposition au radon.
Et j'imagine, Héloïse, que ça varie, ce pourcentage varie fortement à l'échelle du territoire en fonction de la nature géologique des sols. C'est ce que tu disais un peu avant.
Tout à fait. Donc c'est vrai que pour les communes dans lesquelles la concentration moyenne prise en compte est supérieure à 300 becquerels par mètre cube, la fraction de cancer du poumon attribuable au radon est estimée à plus d'un tiers des décès, donc estimée à 39%. Alors sachant quand même, faut rassurer un petit peu tout le monde, c'est un risque qui est vraiment à long terme. Hein, on va considérer que c'est une exposition à une forte concentration pendant une période prolongée entre 5 et 30 ans qui peut augmenter effectivement les risques de cancer du poumon. Il ne suffit pas qu'on soit exposé une heure ou une journée ou même une année au radon pour risquer de développer un cancer du poumon. C'est vraiment l'exposition prolongée à long terme qui va engendrer des risques. Mais effectivement, comme on est sur un territoire potentiellement concerné par ce risque radon, c'est important de le savoir.
Voilà, et pour lever les inquiétudes, il faut savoir si justement on est exposé ou non dans son logement. Comment on peut savoir concrètement si on est exposé dans son habitation au radon ?
Mais c'est vrai qu'on a vu à la carte de l'IRSN, elle est très intéressante, mais elle fournit vraiment un niveau de risque relatif à l'échelle d'une commune et ça présage en rien les concentrations présentes dans son propre logement. Puisque ça va dépendre de multiples facteurs, comme notamment l'étanchéité de l'interface entre le bâtiment et le sol, le taux de renouvellement de l'air intérieur, etc. Donc le fait que son habitation soit localisée dans une commune à potentiel radon de catégorie 3, donc élevé, ça signifie pas forcément qu'il y a des concentrations en radon importantes. Par contre, il y a plus de risques, donc c'est important de le tester. Donc pour évaluer sa propre exposition au radon, il faut faire un dépistage de son habitation. Et ce dépistage, ça consiste à mesurer les concentrations du radon à l'aide de détecteurs qu'on appelle des dosimètres, qu'il est possible donc de placer soi-même très facilement. Alors pour que cette mesure elle soit représentative, elle soit utilisable, il faut qu'elle soit effectuée dans les pièces de vie principales, donc des pièces dans lesquelles on va passer du temps, donc souvent le salon, la salle à manger ou la chambre, sur une durée de plusieurs semaines, au moins 2 mois, entre 2 à 3 mois, et sur la période hivernale, c'est-à-dire au moment où on chauffe. Donc en Lozère, la période hivernale, elle est plus longue qu'ailleurs. Hein.
Elle se raccourcit un peu quand même.
C'est vrai.
Elle a tendance à se raccourcir.
On va considérer entre octobre et mars à peu près, on va faire la détection sur ce moment-là. Ce détecteur, ce dosimètre, hein, ça coûte une quinzaine d'euros pour s'en procurer. Et avec le dosimètre, on a également l'analyse qui est proposée. Donc, il va mesurer le niveau de concentration en radon. Si la concentration est élevée, on va essayer de voir comment faire, trouver des solutions pour réduire l'exposition au radon. Donc, souvent, ces solutions, ça consiste à limiter l'entrée du radon dans le bâtiment en renforçant toujours l'étanchéité entre le sol et le bâtiment, et puis à éliminer le radon en favorisant le renouvellement de l'air intérieur. Alors c'est vrai que c'est vraiment important de comprendre que c'est vraiment ce dépistage qui permet de connaître vraiment son niveau de concentration en radon. Et c'est pour ça que depuis 2017, l'ARS Occitanie propose effectivement des campagnes hivernales de sensibilisation au risque radon dans l'habitat lozérien. C'est aussi dans ce cadre-là que s'inscrit cette journée aujourd'hui, cette journée porte ouverte sur la thématique du radon. Donc l'objectif, c'est d'informer, de communiquer et de distribuer gratuitement aux ménages volontaires un dosimètre pour que les personnes puissent mesurer dans leur logement le niveau de concentration en radon.
Oui, et donc on l'a bien compris, les risques sanitaires liés au radon sont importants. Est-ce que les politiques publiques prennent en compte ces risques ?
Oui, donc vous avez des mesures obligatoires dans certains établissements recevant du public, les établissements sanitaires médico-sociaux, les écoles crèches, les établissements pénitentiaires. En fait, les établissements où on va passer plusieurs nuits, sauf pour les écoles, mais parce que là, c'est le public qui est un peu plus à risque. Dans l'habitat, en fait, au jour d'aujourd'hui, la seule obligation est une obligation d'information qui concerne en fait le potentiel radon de la commune dans laquelle se trouve le logement. C'est l'information qui est due à tout particulier qui signe un bail. Plus particulièrement sur le département, en fait, on a mis en place, avec un financement du ministère de la Santé, donc c'est cette possibilité de faire des mesures chez les particuliers. Donc depuis 2017, nous avons distribué à peu près 1000 dosimètres qui ont permis d'avoir 784 analyses. On a plus de la moitié des mesures qui ont été réalisées qui ont un résultat qui est inférieur à 300 becquerels par mètre cube. C'est le premier seuil de mesure et celui sur lequel on considère qu'il n'y a pas de risque ou un risque très faible d'impact sur la santé. On a à peu près 34% des résultats qui sont compris entre 300 et 1000 becquerels par mètre cube. Donc là, on a un risque modéré en fait, d'augmentation de risque d'avoir un cancer du poumon. Et au-delà de 1000 becquerels par mètre cube, ce qui représente à peu près 12% des mesures réalisées depuis 2017 chez les particuliers, on a une augmentation de risque élevé d'avoir un cancer du poumon. Mais encore une fois, c'est une augmentation de risque à 30 ans et donc on peut agir quand même hein, sur la concentration dans le bâtiment en faisant certains travaux.
On sait, c'est situé où en Lozère ou c'est un peu partout, il n'y a pas d'endroit spécifique
C'est un peu partout. On trouve des mesures supérieures à 1000 becquerel par mètre cube un peu partout sur le département, avec une concentration plus élevée en fait de résultats supérieurs à 1000 becquerel sur le nord département.
D'accord.
Tout ce qui
oui,
est granitique.
Forcément, granitique. Comment on peut se procurer un dosimètre?
Alors, en contactant la DIL, en venant nous rencontrer, alors soit aujourd'hui, le 7 novembre, dans nos locaux à l'occasion de cette journée porte ouverte, soit pendant toute la durée de la campagne hivernale, on va proposer effectivement la distribution gratuite de ces dosimètres dans notre agence amende, mais on peut également les distribuer à l'occasion de nos permanences sur l'ensemble du département ou les transmettre quand on peut aux maisons France Service pour que la distribution soit au plus près effectivement des ménages. Ce qu'il faut, il y a plusieurs critères à respecter. Bien sûr, être volontaire, on force personne, donc il faut avoir envie de connaître le niveau de concentration en radon dans son logement. Il faut occuper le logement à titre de résidence principale. Ça, c'est important parce qu'on sait qu'on a beaucoup de résidences secondaires, notamment dans le Nord Lozère, des personnes qui disent voilà, j'imagine qu'il y a des niveaux de concentration importants. Cette campagne de distribution gratuite de dosimètres, elle concerne que les résidences principales. Et il faut avoir un logement avec une pièce de vie, une pièce principale située en rez-de-chaussée ou en premier étage. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ce gaz, il va se diluer dans l'air. Et donc, plus on monte dans les étages, moins il y a de concentration. Et donc, effectivement, au-delà du premier étage, il y a peu de risques. Et puis, bien sûr, il ne faut pas avoir déjà participé à la campagne sur les hivers précédents. Ou alors, si on y a participé et qu'on avait un résultat important, il faut avoir engagé des travaux, des mesures correctives et vouloir retester pour voir si ça a effectivement eu un impact et fait diminuer le niveau de concentration en radon.
Voilà, c'était ma question d'après. Si justement on détecte du radon, comment faire pour réduire l'exposition donc des travaux?
Oui.
En partie.
Des travaux. En fait, toute personne bien informée peut réduire la concentration de radon dans son logement. En fait, en schématisant un petit peu, on va dire qu'il va y avoir deux grands types de travaux à mettre en place. Un, empêcher le radon de rentrer. Donc, tout ce qui va être améliorer l'étanchéité sur l'interface sol-bâtiment, donc la dalle, s'il y a un vide sanitaire, le ventiler. Quand on a des passages de tuyaux à travers la dalle, bien colmater les joints entre la dalle elle-même et le tuyau, etc. Et le deuxième grand type de travaux, ça va être d'agir sur la ventilation des locaux, donc de faire sortir le radon. De toute manière, on ne le dira jamais assez, il faut ventiler un logement. Donc il faut déjà, pour bien renouveler l'air, ouvrir les fenêtres tous les jours, y compris en période hivernale. Et après, il faut avoir une ventilation permanente dans le logement. L'idéal étant quand même une ventilation mécanique. Mais bon, quoi qu'il en soit, une ventilation permanente dans le logement, en fait, pour pouvoir faire sortir tout le radon qui est rentré.
Et est-ce qu'on peut bénéficier d'aide, Héloïse, pour ces travaux?
Alors, il n'existe pas d'aide spécifiquement fléchée pour les travaux de remédiation au radon. En revanche, effectivement, parmi les travaux qui peuvent permettre de diminuer le niveau de concentration en radon, on peut retrouver des travaux d'isolation, des travaux de ventilation. Et ces travaux-là sont des travaux éligibles, notamment dans les programmes de travaux d'amélioration de la performance énergétique. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on peut finalement embarquer dans un projet de travaux de rénovation énergétique des travaux de remédiation du radon. Donc c'est intéressant effectivement de pouvoir mesurer le niveau de concentration du radon dans son logement le plus tôt possible et si possible avant d'engager des travaux pour pouvoir le cas échéant embarquer effectivement ces travaux dans son programme.
Allez, le bon conseil pour finir cette émission?
Si vous souhaitez savoir si vous respirez du radon dans votre logement, faites le test, informez-vous, venez récupérer un dosimètre et discutez avec nous de cette thématique.
Merci, vous pouvez retrouver ces informations sur le site de l'ADIL de la Lozère, rubrication réponse, en podcast sur les deux sites internet. Vous aussi, vous pouvez poser une question relative au logement afin qu'une juriste de l'ADIL de la Lozère y réponde dans l'émission La Minute de l'ADIL. Vous pouvez envoyer un mail sur adil48@orange.fr pour des conseils gratuits et personnalisés sur le logement. Vous pouvez contacter l'ADIL au 04 66 49 36 65 par mail. Donc je l'ai donné, je vais vous le redonner, c'est important, adil48@orange.fr ou en venant vous rencontrer. Rencontrer les juristes de la DIL à Mende au 12 bis avenue Foch tous les jours sauf le vendredi après-midi. Merci mesdames.
Merci.